j'ai pas toujours beaucoup de chance de parler à Jaffa. Je vais profiter pour vous dire ce que j'ai toujours pensé de vous. La première fois que Winnie est venue, quand Jaffa, elle est retournée à la maison tellement excitée pour me dire, mamie, la prochaine fois, il faut pas que tu manques ça, il faut pas que tu manques ça. Et on vivait dans une communauté où les jeunes étaient peu enclins, peu intéressés aux choses spirituelles. Et Jaffa a fait un déclic dans la vie de Winnie. Elle en parle, elle en parle, elle en parle, si bien que la prochaine année, j'avais pas le choix que de l'accompagner. Et quand je suis venue à Jaffa, il y a une chose qui m'a frappée. La comparaison que je vais faire va peut-être paraître un petit peu ostentatoire pour moi, mais c'est la seule que je trouve. J'ai dit que j'ai éprouvé la même fierté que l'apôtre Paul éprouve en parlant de Timothée, qu'il a appelé son enfant dans la foi. C'est sûr que je ne vous ai pas engendré, mais je pense que je fais partie de la génération de vos mères qui vous ont donné des rudiments de spiritualité que vous avez tellement affinés que je pense que beaucoup de mères comme moi maintenant regardent à vous comme leur modèle spirituel. Et ce que je vous dis là me vient du fond du cœur. Et d'autant plus fière de ceux qui, en cours de route, le Seigneur les a attrapés, qui n'ont même pas eu de modèle spirituel. Et vous êtes devenus ce que vous êtes. Je dis que chaque membre de Jaffa, le Seigneur fait de vous des gens spéciaux. Et je pense que cette fierté, Dieu la partage ce matin avec moi. Ce matin, je vais vous parler de la dépendance. C'est un sujet, qui est-ce qui n'a jamais entendu parler de dépendance? Il n'y a aucune mêlée. Donc tout le monde en a déjà entendu parler. Mais quand on parle de dépendance, on pense généralement à la dépendance aux grosses drogues, à la pornographie ou la cocaïne ou l'extase. Généralement, dès qu'on dit que quelqu'un est dépendant, on pense qu'il est sous l'influence de la drogue ou de la pornographie. Donc, c'est la raison pour laquelle on se demande pourquoi parler de ce sujet dans un milieu chrétien. Mais je dois vous dire, ce matin, la dépendance ne touche pas seulement les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça couche toutes les couches sociales et concerne autant les hommes et les femmes. Je mets essai de définition parce que la dépendance est tellement grande qu'on ne peut pas le circonscrire dans une définition exacte. Je vous dirais qu'une dépendance, c'est l'obligation de satisfaire régulièrement un besoin nuisible. Le mot « besoin » est à peser. Ce que la dépendance fait, c'est qu'un besoin qui, au départ, ne te fait pas mal si tu ne le satisfais pas, prend petit à petit une place essentielle dans ta vie. Donc, la dépendance, c'est le fait de cultiver dans la durée une habitude malsaine. A-t-on toujours parlé de la dépendance dans la vie des hommes? Je dois vous dire que c'est au début des années 70 que le phénomène de dépendance sous toutes ses formes a connu une pleine croissance. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 70? Dans les années 69, il y a un grand mouvement libertaire qui est apparu, avec le slogan que peut-être les gens de ma génération connaissent beaucoup, peut-être que maintenant vous le faites sans le dire, avec le slogan « Il est interdit d'interdire ». Donc, puisqu'il est interdit d'interdire, ces gens ont revendiqué une certaine indépendance et de la liberté à tout prix et dans tous les domaines. Dans cette revendication, il y a eu un paradoxe. Le paradoxe, c'est que ce que le rêve veut, c'est que cette dépendance que les gens cherchent, c'est de pouvoir tout expérimenter, voir tout, se défier des principes ou de la morale pour ceux qui n'étaient pas religieux, ou de la religion pour ceux qui étaient fermés dans un carcan religieux. Donc, d'aller tout essayer et ne pas seulement se restreindre au fait que l'Église a dit que c'est mauvais, c'est la société a dit que c'est mauvais, donc il faut tout essayer. Et
la réalité, c'est cette dépendance, c'est cette liberté qui entraîne l'homme vers la dépendance. Cette liberté a provoqué ce qu'on appelle un relâchement dans les mœurs et les coutumes. En 70, nous allons avoir la vulgarisation de la pilule contraceptive. Avec la pilule contraceptive, on arrive à dissocier le plaisir sexuel et la procréation. Puisque avant, dès que tu avais un contact sexuel, tu avais le risque de tomber enceinte. Maintenant, puisqu'avec la pilule, on a le contrôle, donc on peut avoir des contacts sexuels quand on veut, avec qui on veut, où on veut. Et la même chose pour les grandes idées philosophiques qui vont venir de l'Orient que les gens vont expérimenter pour sortir du carcan déjà préétabli. Donc, quel était le but inavouable derrière cette prétendue liberté qu'on donnait? En réalité, derrière cette liberté apparente, se construit tout un système de fonctionnement poussant l'individu vers de multiples dépendances. Ces dépendances vont même devenir, dans les années 2000, l'un des piliers de nos sociétés dites des sociétés de consommation. C'est la base de nombreuses stratégies de marketing qui fait de nous, parce que maintenant, tu vois, quand on parle de nous, dans la presse, on dit que nous sommes des consommateurs. Ça fait de nous des consommateurs et un consommateur qui est accro ou bien à un produit ou bien à un concept. Donc, tu ne peux pas demander à mon fils de ne pas avoir de cellulaire maintenant ou de ne pas texter. Où le temps, où le portable est devenu à la mode, tu ne peux pas ne pas en avoir. J'ai appelé quelque part pour donner un renseignement dernièrement. J'ai dit à la dame que je n'avais pas de cellulaire et pour ne pas comprendre comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre, madame. Donc, on ne peut ne pas avoir de cellulaire parce qu'on devient tellement dépendant de ces choses-là. Donc, on parle des marques, ce que je porte comme vêtements, et on devient dépendant sans qu'on le sache. Moi, je ne porte pas n'importe quoi. Si je dois acheter une paire de tennis, il faut que ce soit un Nike ou rien du tout. Donc, on est dépendant et c'est exactement le but qui était derrière cette liberté qu'on nous offrait. Mais je dois partir avec vous d'un postulat. Tout homme est dépendant. Tout homme est dépendant parce que Dieu a créé l'homme pour être dépendant de son Créateur. En choisissant la rupture que nous lisons dans Genèse chapitre 3, l'homme a créé un vide qu'il essaie de combler en créant toutes sortes d'artifices. Ce réconfort, s'il existe, est minime et reste assurément de courte durée. Donc, Ésaïe nous dit dans Ésaïe 55, verset 2, pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Maintenant, la typologie des dépendances. Quels sont les types de dépendances? Je peux vous dire qu'il existe plusieurs, comme je vous l'ai déjà dit dans mon introduction, quand on parle de dépendance, nous pensons directement à la consommation de la drogue, de l'alcool ou du sexe. Mais cependant, il existe plusieurs formes de dépendance. Il y a la dépendance affective, il y a la dépendance au jeu, à la sexualité, à la nourriture, au travail, la dépendance aux médias, la dépendance aux plateformes de réseaux sociaux. Vous savez ce que c'est, dès qu'on se lève le matin, il faut qu'on check son Facebook pour savoir ce qui se passe, quelles sont les dernières nouvelles. Si on n'est pas sur Facebook, et on n'existe pas, comme moi par exemple. Donc, maintenant, quelles sont les sources de dépendance? Les sources de dépendance, comme les plus communes, vous le savez, on parle du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy, de l'héroïne. Mais à côté de ces sources que l'on peut appeler des sources illégales, il y a les sources légales. Il y a l'alcool et le tabac qui est vendu. Il y a chez toi, tu ouvres ta télé ou bien tu vas au club internet, tu achètes tu loues ta cassette de pornographie, tu rentres chez toi, ni vu ni connu, tu passes tes films, tu consommes ça, personne ne le sait. Donc, il, c'est ces sources, je dirais, pour nous chrétiens, qu'il ne faudrait pas négliger. Parce que si on, nous autres, nous ne buvons pas, nous ne consommons pas de l'alcool, mais nous sommes tous exposés à ces sources de dépendance. Donc, je parle aussi du sport. Il y a des gens qui pratiquent le sport, qui sont chrétiens, qui pratiquent le sport à outrance, qui te disent, je sais que soupape d'évacuation de nos pulsions, mais il y a des gens qui ne peuvent plus se contrôler, qui font du sport, qui dépendent du sport. S'ils ne le font pas, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas heureux. Donc, toutes les dépendances que je viens de citer, on peut les classer en deux grandes catégories. On parle de la dépendance physique et de la dépendance psychologique. La dépendance physique, comment est-ce que cela s'exprime? Elle s'exprime par un sentiment de manque qui se manifeste par des symptômes physiques. Donc, dès que l'objet de ta dépendance est en dehors de ta vie, tu as des symptômes physiques. Hier, on en a ébauché un petit peu quand on parlait de la dépression. Tu as de l'agitation, tu vois les gens qui prennent de la drogue quand ils sont en manque, ils ont des tremblements, comme si c'était la maladie de Parkinson. Ils tremblent, il y a des douleurs, des spasmes et les gens transpirent. Donc, généralement, ces symptômes, c'est les symptômes du sevrage. Donc, quand la personne, ou bien volontairement, décide de ne pas en prendre, ou bien l'objet de sa dépendance n'est pas à sa portée. Et puis, il y a la dépendance psychologique. Mais je dois vous dire que la dépendance psychologique précède la dépendance physique. Donc, c'est un état de malaise et d'angoisse qui suit la privation d'une chose, d'une situation ou d'une personne. Et sur cette dépendance psychologique, je vais m'arrêter particulièrement sur la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le fait de perdre ton bonheur quand quelqu'un ou manque à ta vie ou bien ne se manifeste pas comme tu le désires. Vous avez une malade guérie, entre parenthèses, devant vous. Moi, quand j'ai eu mes enfants, j'étais dépendante à mes enfants. Je peux vous dire que j'ai envoyé mes enfants dormir chez des gens. Le soir, je faisais une fièvre. Parce que quand mes enfants ne sont pas là, je ne pense pas qu'ils sont en sécurité. Donc, c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé. Bien, âge oblige aussi, ils sont devenus grands. Maintenant, ils loin de moi. Et puis aussi, une personne qui souffre de dépendance affective, c'est une personne qui a toujours besoin de l'appréciation des autres. On dirait que toute sa valeur dépend de ce que l'autre dit. Par exemple, la personne peut se lever ce matin, s'habiller, voir dans la glace que ce qu'elle porte, c'est très bien, elle est bien. Mais, tu vois, je suis descendue ce matin, tu ne m'as même pas dit que mon maillot était beau. Et c'est une raison pour que cette personne monte se changer, parce que tu lui avais dit que c'était beau. La personne n'est plus en mesure d'apprécier. Donc, toute l'appréciation personnelle vient du regard de l'objet de sa dépendance. Mais je dois vous dire aussi qu'il existe une saine dépendance. Donc, c'est la dépendance que le mari a de la femme a du mari, que l'enfant a de sa mère ou du parent âgé de ses enfants. C'est une dépendance affective qui est saine, qu'on peut toujours entretenir parce que ça solidifie la relation entre quelqu'un qui est proche de toi. Donc, quand parle-t-on de dépendance? Quand est-ce qu'on dit? Quand est-ce qu'on peut identifier une personne ou dire que moi, je suis dépendant? On se base sur au moins trois critères. C'est la tolérance manifestée par le besoin d'accroître les doses consommées. Là, je parle de dépendance physique. Les doses consommées pour obtenir un effet désiré par une diminution des effets. Et je reprends, ou bien vous veillez avec moi, c'est une tolérance manifestée par le besoin d'accroître les doses consommées. Donc, à chaque fois que vous n'êtes pas en mesure de diminuer ces doses-là, c'est un signe que vous êtes dépendant. Et la deuxième chose, c'est les symptômes du sevrage que j'avais vu avec vous tantôt. La troisième cause pour savoir si on est dépendant, c'est la prise de la substance en plus grande quantité et pendant un plus longtemps que prévu. Par exemple, on peut vous prescrire un médicament et le médecin vous dit, ça vous le prenez pendant 10 jours. Vous le prenez pendant 10 jours, mais après 10 jours, vous n'êtes pas rentré dans ton état de bien-être. Vous continuez à le prendre. Vous devenez dépendant de ce médicament, même lorsque c'est quelque chose que le médecin vous a prescrit. C'est aussi un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler sa situation. Ce qui arrive dans la dépendance, c'est ce que je dis, la première fois que tu prends la décision de consommer, c'est toi qui prends la décision. Mais une fois que tu deviens dépendant, c'est l'objet de ta dépendance qui prend possession de toi. Tu n'es plus toi-même parce que tout ce que tu fais tourne autour de cette dépendance-là. Et vous passez beaucoup de temps, vous consacrez beaucoup de temps à si c'est une activité ou la substance ou l'objet de ta dépendance pour te procurer de cette substance-là. La sixième chose, vous abandonnez et vous réduisez vos activités sociales. Si vous voyez qu'il y a une chose que vous aimez, c'est vrai que vous aimez aller au sport et vendredi, on t'invite à un sport, mais c'est l'anniversaire de ta meilleure amie, tu dis non, je ne peux pas faire mon gym là aujourd'hui. Mais c'est à 7 heures mon gym et sa rencontre, c'est à 7 heures, non, je vais aller au gym. Donc vous négligez vos relations sociales, vos relations professionnelles, vos loisirs. Donc c'est un signe de dépendance. Et puis, le point clé, c'est de continuer à faire la même chose, même lorsque vous avez connaissance que cette chose-là a un impact sur votre santé, a un impact sur votre relation. Vous voyez tout ce que l'ennui que ça apporte, mais vous persistez là-dedans quand même. Donc, je l'avais déjà dit, les critères 1 et 2 référaient aux références aux dépendances physiques. Maintenant, quelles sont les solutions que la médecine curative apporte à la dépendance? Est-ce que je vais trop vite ou bien est-ce que c'est trop long? Hein? Le débit est bon, je peux continuer? Ok. Bon, la médecine curative propose des traitements, mais des traitements qui varient en fonction de la gravité de la dépendance. Elle propose d'abord le sevrage supervisé. Le sevrage supervisé, c'est avec l'administration de médicaments. On donne aux gens des médicaments et on a les types de médicaments qui sont des opiacés comme le Valium, le Cérax, des activants. C'est des choses comme ça qu'on donne à la personne pour la calmer quand, et diminuer son anxiété quand la personne est en état de manque. Généralement, ces gens rentrent dans une cure où ils passent 7 à 10 jours. Et c'est quelque chose qui se développe en milieu hospitalier. Ou en milieu hospitalier ou bien dans un centre de désintoxication. Donc, l'autre type de traitement qu'on propose, c'est la thérapie à l'interne. La thérapie à l'interne, c'est des endroits qui sont faits pour ça. Les gens vont, et si vous faites l'actualité, on va vous dire qu'un tel a été dans un centre où il va pour s'interner, entre parenthèses, pour faire un cure de désintoxication. Et puis, il y a la thérapie à l'externe, que l'on appelle généralement le counseling. Mais je vous dis que les approches varient selon les professionnels. Donc maintenant, il y a les groupes de soutien. Les groupes de soutien viennent d'un premier groupe de soutien que l'on appelle les alcooliques anonymes. On a vu que ce groupe de soutien fait des miracles dans la vie des gens qui étaient dépendants à l'alcool. Et c'est à partir de ce groupe principal de soutien des alcooliques anonymes qu'est devenu des groupes de soutien pour des gens qui sont des cocaïnomanes, qui prennent les narcotiques que l'on prescrit et qui les prennent de façon à outrance. Et ces groupes-là, applique, je dirais, la méthode des alcooliques anonymes. Qu'est-ce que ce modèle a de spécial? Le modèle des alcooliques anonymes, c'est un modèle qu'en 1950, aux États-Unis, qu'on a développé avec un ensemble de professionnels qui comportent des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, pour qu'on place l'individu dans un milieu où la globalité de sa vie est prise en charge. Ce qui arrive avec les alcooliques anonymes, c'est qu'on considère l'alcoolisme comme une maladie. Et quand la dépendance de la personne est considérée comme une maladie, on gagne un premier point. Le premier point qui est gagné, c'est que la personne considère sa dépendance non comme une honte, mais comme un mal. Je dis une maladie, comme un mal, et comme quand on est malade, on cherche un traitement, et quand on est malade aussi, il y a d'espoir. Si le traitement est trouvé, on va en sortir. Donc ça donne une certaine dignité à l'individu. Donc, je retourne sur le modèle de Minnesota. Le modèle de Minnesota, je vous disais tantôt, est issu d'une approche entre les modes de prise en charge traditionnels de la dépendance et le mouvement des alcooliques anonymes. Je l'ai déjà dit, je me reprends. Donc, je n'avais pas lu mon diapo. C'est bon, je continue. Donc, maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a de spécial dans le modèle de Minnesota. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et spirituel. Le modèle de Minnesota définit la dépendance comme une maladie physique, mentale et spirituelle. Donc, pour aider l'individu à sortir de sa dépendance, il est traité comme quelqu'un qui est malade. Et puisque la personne est considérée comme quelqu'un qui est malade, la personne est plus apte à recevoir le traitement et tous les principes, et la personne s'implique. Tu es hypertendu, chaque matin tu dois prendre une pilule, la personne se prend en charge. Il sait que sa tension artérielle ne va pas être au point s'il ne prend pas sa pilule. Ainsi, la personne qui est dépendante applique à la lettre tous les points qu'il faut pour sortir de sa dépendance. Donc, ce modèle-là est utilisé maintenant dans tous les centres, je vous dirais, de thérapie en Amérique du Nord, surtout au Canada. Donc, maintenant, que propose la Bible? C'est là que ça nous intéresse. Je dois vous dire que, sans négliger l'aspect médical, le moyen le plus prometteur pour sortir d'une dépendance, c'est ta dépendance à Dieu. Parce que vous vous souvenez qu'on est parti du postulat que tout homme est dépendant. Comme Dieu est notre créateur, il sait exactement ce dont on a besoin. Et ce qui va enclencher cette dépendance avec Dieu, c'est une relation sincère et prioritaire, d'après ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 2. Pourquoi c'est Dieu qui peut nous sauver de la dépendance? Dans Matthieu 6, verset 22, Dieu nous dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Parce que quand on s'accroche à une source de dépendance, c'est parce qu'on a un besoin à combler. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd pour nous, qu'on ne peut pas prendre tout seul. Et bien, quand on prend l'alcool, on le fait plus aisément. Donc, maintenant, quand on se charge sur Dieu, on met sur lui ce fardeau qui nous aurait poussé vers la dépendance. Et en plus, Dieu a les moyens, lui, de nous aider, selon Luc, chapitre 1, verset 37, parce que Luc nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Comme pour la thérapie que la médecine propose, on ne peut pas sortir quelqu'un de la dépendance. Tu ne peux pas dire, j'ai mon frère qui est dépendant, je vais le sortir de la dépendance. Pour que la personne sorte de sa dépendance, il faut que la personne, non seulement soit consciente de son cas, et c'est la première démarche, c'est à la personne d'aller chercher de l'aide. Donc, il faut que nous soyons conscients de notre état et dire à Dieu que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu a besoin de notre consentement pour nous sauver de notre dépendance. C'est une réalité et les gens qui sont dépendants ne le croient pas. Il y a beaucoup de gens qui restent dans leur dépendance et qui se font piéger par des pensées. Ils pensent que c'est trop tard que je pratique cette affaire-là. Je ne veux plus. Il y a des gens qui fument, qui disent, bah, j'ai toujours fumé. Donc, comment laisser parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, c'est trop tard pour moi. Et puis, on pense que si on lâche l'objet de sa dépendance, on ne va plus vivre normalement, on ne va plus connaître le bonheur. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous nous disons, il y a tellement de mauvaises choses que j'ai faites dans la pratique de ma dépendance que Dieu ne pourra jamais me pardonner. C'est des pièges à éviter parce que Dieu, c'est lui qui nous a fait, il nous aime, il peut tout. Il ne faut jamais oublier ces points. Dieu t'aime et souffre de ton état de dépendance, selon ce que nous dit Romains 8, verset 5. Et Hébreux 4, verset 15 nous dit que Dieu reste accessible pendant le temps que nous sommes dans notre dépendance. Dieu ne s'attend pas à ce que nous sortions de notre dépendance pour nous sauver. Il est accessible pendant que nous vivions la dépendance. Il est proche de nous, selon ce que nous dit 1 Pierre 5, verset 5. Dieu ne se satisfait pas de ta situation de dépendance. Parce qu'il dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il veut nous purifier du mal que nous avons commis, selon 1 Jean 1, verset 9. Et puis, pour sortir de notre dépendance, c'est Dieu lui-même qui va nous donner le punch, comme diraient les Québécois, le coup de pied dans les fesses qu'il faut pour partir. C'est Dieu qui le donne. Vous allez trouver ce réconfort de Philippiens, chapitre 2 et le verset 13. Dieu t'a équipé complètement par Christ pour triompher de l'esclavage d'une dépendance. Dans 2 Pierre 1, verset 3, nous lisons, par sa puissance, Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre de l'attachement au Seigneur. Maintenant, comment s'en sortir? Il faut créer une relation de dépendance avec Dieu. Il faut accepter la coupure, même si c'est difficile. Il faut persévérer, parce qu'en moment de sevrage, on souffre beaucoup. Il faut persévérer malgré cette souffrance. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas sortir seul, il faut chercher de l'aide. Et quand on veut sortir de dépendance, généralement, vous voyez les gens qui sortent, qui retombent, c'est des beaux parleurs. Ils prennent des théories, ils vous disent qu'ils vont faire des choses extraordinaires. Non. C'est pour sortir de la dépendance, il faut établir un plan réaliste. Et c'est une bataille qui se gagne par millimètres. C'est chaque jour que vous vous donnez un objectif, mais un objectif qui ne va pas trop loin, assez réaliste, pour que non seulement vous puissiez le réaliser et apprendre à prendre confiance en vous-même. Et la dépendance, je vous dis, c'est ça. L'objet de notre dépendance est là, mais c'est sur une ratière. Vous n'y entrez pas sans vous. Dans mon pays, on appelle ça un mortograph. Donc, dès que tu rentres là-dedans, tu meurs sans Jésus. Donc, jamais franchir le pas. Regardez les choses, jamais franchir le pas. Maintenant, quel est le plus grand secret pour ne pas tomber dans la dépendance? C'est la prévention. Et la prévention, hier, on en a parlé. Le Seigneur nous donne la source, et je vous dis, si vous êtes enclin à la dépendance, le livre d'Hélène White, qui est une compilation de tout ce que Hélène White a postulé sur la dépendance, Tempérance, c'est un livre à lire. La Bible affirme que tout est permis, mais elle rajoute vite, et il ne faut jamais l'oublier, que tout n'édifie pas, selon 1 Corinthiens 10, verset 23. Et 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit de ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Donc, en conclusion, je vous dirais que le mieux dans une dépendance, c'est de ne jamais y rentrer. Veille à cultiver des habitudes qui te rapprochent de Dieu. Car si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et pour que nous jouissions la vraie liberté qu'il nous a acquise. Ne sortez pas de la liberté du Christ pour aller vous placer sous le joug de la dépendance. Ne vous laissez pas imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Par la force que tu puisses en Christ, la guerre se gagne. Et la guerre de la dépendance se gagne par des batailles successives. C'est tout ce que j'avais pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.